Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Maxime Schwartz, biologiste.
Bonjour Étienne.
Tu es biologiste, tu es ancien directeur de l'Institut Pasteur, donc tu es particulièrement adapté pour qu'on puisse discuter d'un mot, un mot qu'on entend partout et que les journalistes, les médias et même les gens qu'on rencontre dans la rue utilisent à tort et à travers. Alors aujourd'hui, nous allons rectifier le tir et tu vas nous expliquer comment utiliser bien ce mot. Et ce mot, c'est
ADN.
Commençons par ça. Est-ce que tu pourrais me donner un ou deux exemples d'usage de ce mot qui te rendent malheureux?
Oh ben, il y en a tellement dans une journée, si on écoute la radio, qu'on regarde la télé, il est utilisé plusieurs fois. On parle d'abord de l'ADN de quelqu'un, on dit c'est dans son ADN d'agir de telle façon, d'avoir tel comportement. Ou bien on dit, on l'applique à des entités, on dit tel parti politique.
C'est son ADN.
C'est son ADN d'être antisémite, par exemple. ou bien tel pays, ou bien telle société. Donc c'est employé absolument tout le temps. Et c'est pas la peine de donner des exemples spécifiques.
Et rarement à bon escient.
Ah, on peut dire jamais à bon escient.
Grâce à ce podcast qui va être écouté par des millions de gens,
j'en doute pas,
nous allons rectifier le tir. Tu veux nous expliquer ce qu'est en vrai l'ADN et pourquoi ça n'a pas de sens de dire l'ADN d'un parti politique. Alors, d'abord, il y a ce mot que j'arrive à peine à prononcer, acide désoxyribonucléique.
Parce que c'est un acide et il y a un sucre dedans qui est un désoxyribose. Et puis nucléique, c'est parce qu'il y a des bases qu'on appelle des bases nucléiques. C'est pour ça que ça s'appelle des oxyribonucléiques. Mais je crois qu'il n'est pas indispensable d'entrer dans le détail de la formule chimique. Il faut bien voir qu'est-ce que c'est que l'ADN. Bon. L'ADN, c'est une molécule compliquée qui se trouve dans les chromosomes de tous les êtres vivants. C'est une très grande molécule. Eh bien, contient le code qui transmet les propriétés héréditaires de cet être vivant. Ce sont de très longues chaînes.
Comme un collier,
qui sont constituées de plus petites molécules, qui sont ces fameuses bases nucléiques et qu'on a l'habitude de désigner par A, T, G, C. Inutile d'aller plus loin. Et c'est donc l'ordre de ces petites molécules, des ATGC, dans la longue chaîne qui font le code qui détermine les propriétés héréditaires.
Alors, ce qui m'a toujours impressionné là-dedans, c'est que toutes les cellules de mon corps contiennent le même ADN.
C'est exact, toutes les cellules contiennent le même ADN.
Alors que les cellules de mon corps ne fonctionnent pas toutes de la même manière.
C'est exact, mais ça, c'est dû à des phénomènes, disons, de régulation qui font que telle ou telle partie, qu'on appelle les gènes, porté par cet ADN, tel ou tel gène sont exprimés dans telle ou telle cellule. Ça résulte de tout un processus de différenciation qui est extrêmement compliqué, qui met en place, disons, les gènes qui sont exprimés dans telle ou telle cellule.
Donc, on a quand même le droit de dire l'ADN de Maxime ou l'ADN d'Étienne.
Chacun a son ADN, c'est exact. Il y a peut-être des toutes petites modifications, c'est ce qu'on a résultant de ce qu'on appelle des mutations somatiques qui font qu'il peut y avoir des minimes différences entre certaines cellules. Alors si je continue la description de ce qu'est l'ADN, j'ai parlé de très longues chaînes. Il se trouve qu'en fait, une molécule d'ADN, c'est deux chaînes qui sont enroulées l'une autour de l'autre pour former la fameuse double hélice. La double hélice, on en voit par exemple au château de Blois, où il y a deux escaliers qui sont enroulés en hélice l'un autour de l'autre et qui font que les gens qui montent par l'un des escaliers ne croisent jamais ceux qui descendent. L'ADN, c'est donc cet ensemble de deux de longues chaînes qui sont enroulées l'une autour de l'autre.
Mais les symboles qui sont écrits sur l'un des brins de la chaîne sont en relation avec les symboles qui sont sur l'autre brin de la chaîne.
Ah, c'est exact.
Donc il y a un peu de la duplication d'informations.
Mais c'est-à-dire qu'il se trouve que dans cette association des deux chaînes, ce qui joue un rôle très important, c'est le fait que les éléments, les fameuses bases nucléiques, ATGC, peuvent s'apparier l'une à l'autre, mais d'une façon spécifique. C'est-à-dire que quand dans une chaîne il y a un A, en face il va y avoir un T. Et quand d'une chaîne il y a un G, en face il va y avoir un C. Ce qui fait que quand on connaît donc la succession des ATGC sur une des chaînes, eh bien ça détermine la succession sur l'autre chaîne. Et c'est ça qui explique le phénomène de réplication, c'est-à-dire qui fait qu'une cellule, quand elle va se diviser, eh bien elle va obtenir au bout du compte deux molécules d'ADN qui sont identiques à celles du début, puisqu'il va se synthétiser sur chacune des chaînes la chaîne complémentaire qui va donc restituer une double chaîne identique à
donc
celle du parent.
Chacune des deux chaînes est en quelque sorte une photocopie en négatif de l'autre.
Exact.
Voilà. Alors maintenant, on sait ce que c'est que l'ADN. Pourquoi est-ce que mon ADN n'est pas le même que celui de mon fils, ou pourquoi mon fils n'a pas le même ADN que ma femme ?
Bon, alors, bon, d'une part, il faut bien voir que tout le monde n'a pas exactement le même ADN, parce que au cours des générations, se sont accumulées des mutations qui font qu'il y a des différences d'un être humain à un autre, et ce serait vrai pour d'autres espèces vivantes. Mais alors, si on prend spécifiquement la question que tu poses, eh bien, nos enfants, eh bien, ils ont hérité, puisque tous les chromosomes sont par paire, en fait, dans chaque cellule, eh bien, tous les enfants, ils ont hérité, pour chaque cellule, d'un chromosome qui vient du père et d'un chromosome qui vient de la mère.
De manière assez aléatoire. On dit souvent que si on connaît l'ADN d'un enfant, on connaît ce qu'il sera.
Bon, alors ça rejoint en fait l'usage d'ADN quand on dit c'est dans l'ADN de X ou Y de se comporter de telle ou telle manière, etc. Alors il faut bien voir que chez un individu, il y a des caractéristiques qui sont strictement héréditaires et qui sont donc codées dans l'ADN. Si on prend par exemple la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, ça résulte de l'association des gènes qu'on a reçus de ses parents.
Et ça, c'est bien compris. Ça veut dire, si je te donne l'ADN à la naissance, tu peux exactement savoir...
Aujourd'hui, oui. Voilà. Aujourd'hui, on a pu déterminer quels étaient les gènes qui intervenaient dans la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Et donc, si on séquence l'ADN de quelqu'un, ce qui maintenant se fait extrêmement rapidement, on peut savoir ça. Mais alors, même dans les caractéristiques physiques, il y a des choses qui ne sont pas strictement héréditaires. Si on prend la taille, par exemple, la taille d'un individu, elle résulte en partie, effectivement, de l'hérédité. C'est sûr que si on a des parents qui sont petits, on a plus de chances d'être petit. Mais interviennent aussi des choses qui relèvent de ce qu'on appelle l'acquis, c'est-à-dire, par exemple, la nourriture, l'alimentation, donc, ou toute une série, de comportements, d'environnement, etc. Donc même une caractéristique physique, souvent, n'est pas entièrement déterminée par l'ADN. Si on en arrive alors ensuite aux caractéristiques intellectuelles, psychologiques, etc., alors là, ça devient beaucoup plus difficile.
Jadis, on disait le gène de l'alcoolisme.
Oui, ben tout ça, en fait, on ne sait pas exactement. Il y a souvent, probablement, une composante héréditaire, mais il y a aussi une composante très importante de l'acquis. Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est celui d'une maladie, la tuberculose. Bien, pendant des années, on a considéré que c'était une maladie héréditaire. Parce que très souvent, si les parents avaient une tuberculose, les enfants avaient la tuberculose. Et ça n'est qu'au début du XXe siècle qu'on a compris qu'en fait, la tuberculose, c'était dû à un microbe, et que si les enfants avaient la tuberculose, c'était simplement parce que les parents lui avaient transmis ce microbe.
Cet ADN n'est pas un déterminant strict du futur d'un individu.
Non, c'est un élément qui peut intervenir. Oui.
Et la question est de savoir mesurer la proportion de l'inné et de l'acquis qu'une vieille question qu'on débat depuis des siècles, qu'on comprend mieux aujourd'hui, mais pas encore complètement.
Non, on progresse malgré tout, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des gènes qui ont un rôle, par exemple, des gènes de prédisposition aux maladies. J'ai parlé de la tuberculose, bon, le point essentiel, c'est celui que j'ai dit, c'est la transmission des parents vers les enfants ou des grands-parents vers les enfants. Mais on a aussi mis en évidence des gènes qui prédisposent à la tuberculose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres à l'assaut du microbe.
Il y a quelques années, il y avait cette boîte privée américaine qui proposait pour quelques dollars d'analyser ton ADN, je crois que c'est facile à faire aujourd'hui, mais qui t'envoyait un grand document où on te disait quelle était ton origine géographique, quelles étaient les maladies pour lesquelles tu pourrais peut-être être contaminé. Je crois que c'est devenu interdit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un beau cadeau qu'on peut faire à des parents qui viennent d'avoir un enfant?
Mais ça, c'est un des gros problèmes. Depuis qu'on sait faire des tests génétiques, est-ce qu'il faut les autoriser ou pas? Parce qu'il y a des gens qui risquent de vouloir faire un avortement parce qu'il y a tel ou tel problème. Et ça, on ne sait pas si c'est vraiment bon. Alors, on l'a fait déjà pour la trisomie 21 depuis longtemps, puisque là, c'est très simple, c'était un chromosome de trop. Mais ensuite, faire un test pour une maladie comme la maladie d'Huntington, qui est très très grave, mais qui se déclare à 40 ou 50 ans, dire à quelqu'un qu'il a cette maladie, c'est quand même un gros problème. Cela dit, ne pas lui dire, c'est aussi un problème, parce que comme c'est une maladie héréditaire, c'est quand même important de savoir pour les enfants.
Alors, quelle est la situation juridique aujourd'hui en France?
Je crois qu'on ne peut pas, mais je ne connais pas le détail de la situation juridique. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que ces choses-là sont très utiles dans la police scientifique. Oui. Parce que là, maintenant, on peut, dans certains cas, déterminer si le coupable, par exemple, vient de telle ou telle région. C'est plus les maladies à ce moment-là, mais tu as mentionné l'idée qu'on puisse savoir de quelle région on vient du globe. Ça, ce sont des choses, effectivement, qui peuvent être collectées par la police scientifique à partir de l'ADN.
Et qui sont avérées.
Qui sont avérées, oui.
Je me souviens d'un journaliste qui expliquait quelque chose que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui disait qu'on pouvait penser à l'ADN un peu comme une télécommande. C'est-à-dire que tu as un système compliqué, comme tu es en train de télécommander une voiture télécommandée, et puis la voiture, elle se promène dans son milieu, il faut bien il y a des montées, des descentes, et là, avec ta télécommande, tu as une partie du fonctionnement de la voiture. Est-ce que c'est une belle image?
Oui, je ne l'avais pas entendu, mais ça me paraît raisonnable, oui. Mais il faut quand même parler de l'utilisation de l'ADN pour des entités. Et là, c'est absurde. C'est en ce sens-là. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de dire que tel parti politique, dans son ADN, est de faire telle ou telle chose. Un parti politique n'a pas d'ADN. Des individus, peut-être, mais pas une entité. Et ce qui est d'autant plus absurde, c'est qu'il y aurait d'autres façons de dire exactement la même chose. On peut dire c'est une caractéristique essentielle, par exemple, ou bien c'est une valeur fondamentale, ou bien c'est indissociable d'eux. Enfin, il y aurait 36 manières de dire la même chose sans utiliser ce sigle ADN qui est totalement non approprié.
Alors comment tu comprends ça? Parce que les gens se camouflent derrière un mot scientifique?
Il y a des modes, ça fait bien. Dire que c'est dans l'ADN d'eux, ça fait croire qu'on sait ce que c'est que l'ADN, mais les trois quarts des gens ne savent même pas que ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique, et ce que c'est exactement. Je ne pense pas qu'ils veuillent se cacher particulièrement. C'est une mode, simplement. Probablement que ça va disparaître d'ici quelques années.
Quel est, selon toi, le degré de connaissance de ce que tu nous as raconté aujourd'hui dans la population générale?
Je pense qu'il n'est pas très élevé. Je ne pourrais pas donner de proportion, mais je pense qu'il n'est pas très élevé. C'est-à-dire que je pense quand même que si on dit c'est dans l'ADN de, les gens comprennent quand même que c'est dans l'hérédité, j'imagine. Une fois, j'avais été au théâtre du Rond-Point C'était pour un spectacle Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, donc ça date de pas mal d'années. Et il se trouve que dans le foyer de ce théâtre, il y avait une molécule d'ADN comme lustre. Et pour tester le serveur, j'avais demandé « qu'est-ce que c'est ce truc là-haut ?» Il m'a répondu « c'est la molécule de la vie ». C'était pas mal répondu.
Bien.
Pas mal répondu.
Merci beaucoup.
Mais il n'y a pas de quoi, Étienne.
Alors, vous avez entendu quelques extraits de la musique du film Bienvenue à Gattaca, qui se passe dans un monde futuriste terrifiant. Les employés sont sélectionnés en fonction de leur ADN.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.